Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg et Chérubin Dorsil pour cette nouvelle édition du lundi 20 juillet, Le Monde aujourd'hui. À la une ce soir.
Ouverture aujourd'hui au Sénégal du procès de l'ancien dictateur tchadien Hissène Habré.
Le président nigérian à la Maison-Blanche, Muhammadu Buhari et Barack Obama ont discuté, entre autres, de la menace posée par Boko Haram.
Trois jours avant une tournée de Barack Obama en Afrique de l'Est, Washington met en garde contre de possibles attaques terroristes au Kenya.
Aux Nations Unies, le Conseil de sécurité donne son feu vert à l'accord sur le nucléaire iranien.
Moment historique dans les relations américano-cubaines, les États-Unis et Cuba rouvrent leurs ambassades à La Havane et à Washington.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
Une première journée agitée au procès Hissène Habré, l'ex-président tchadien a dû être amené de force au tribunal spécial de Dakar, où il est jugé pour crime contre l'humanité. Nicolas Pinot.
Vêtu de blanc et coiffé d'un turban, Hissène Habré, 72 ans, qui refusait de comparaître, a été amené de force et porté dans le box des acculés au palais de justice de Dakar par des agents de l'administration pénitentiaire. Chapelet de prière à la main, il a levé le poing et crié « Allahu Akbar ». Le procès qui s'ouvre ce lundi se tient devant les chambres africaines extraordinaires, tribunal spécial créé par l'Union africaine. L'accusé qui ne reconnaît pas cette juridiction ni dans sa légalité ni dans sa légitimité, selon ses avocats, leur avait donné instruction de ne pas assister non plus aux audiences. Le procès a pu démarrer après l'évacuation de partisans de l'accusé qui ont hurlé des slogans hostiles à la cour. Le président du tribunal, le Burkinabé Gberdao Gustave Kam, a constaté que la défense n'était pas représentée avant de poursuivre la séance en présence d'environ un millier de personnes. Hissène Habré en détention depuis 2 ans au Sénégal, où il avait trouvé refuge après avoir été renversé en 1990 par l'actuel président tchadien Idriss Déby Itno. Hissène Habré est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. La répression féroce sous son régime entre 1982 et 1990 a fait 40 000 morts, selon les organisations de défense des droits de l'homme.
Nouvelle violence au Nigeria. 8 personnes, dont 3 policiers, ont été tuées dans l'explosion d'une voiture piégée à un checkpoint près de Damaturu. Cette grande ville du nord-est du Nigeria a été régulièrement attaquée par les islamistes depuis 6 ans.
Le président Barack Obama a reçu aujourd'hui à la Maison-Blanche son homologue nigérian Muhammadu Buhari. Au centre de leurs entretiens, la menace posée par les militants islamistes de Boko Haram au Nigeria et dans des pays de la région comme le Tchad, le Niger et le Cameroun. Idrissa Seloudia.
M. Obama a qualifié le Nigeria de l'un des pays les plus importants du monde, ajoutant que les récentes élections et la passation pacifique de pouvoir confirment l'engagement du Nigeria envers la démocratie. Il s'est dit très préoccupé par les attaques de Boko Haram et convaincu que le président Buhari a un programme clair pour vaincre les militants islamistes et aussi combattre la corruption qui mine le Nigeria et sape sa prospérité économique. M. Obama se promet de discuter avec M. Buhari de la coopération États-Unis-Nigeria sur les questions antiterroristes. Pour la Maison-Blanche, cette visite de M. Buhari souligne l'engagement des États-Unis en faveur du renforcement et de l'élargissement du partenariat avec le nouveau gouvernement nigérian et du soutien à son peuple. Washington et Abuja sont résolus à améliorer les relations bilatérales après les tensions qui les caractérisaient sous Goodluck Jonathan, le prédécesseur de M. Buhari.
À quelques heures de l'élection présidentielle controversée au Burundi, une grenade a explosé cet après-midi dans le centre de Bujumbura sans faire de victimes. Le pays est appelé aux urnes demain mardi pour un scrutin dont la victoire est acquise au président Pierre Nkurunziza, l'opposition boycottant presque totalement l'élection.
Les parlementaires rwandais ont commencé aujourd'hui des consultations populaires à travers le pays dans le but de rédiger la réforme constitutionnelle qui permettra au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017. Ces consultations se dérouleront jusqu'au 11 août, a dit à l'AFP Donatile Mukabalisa, présidente de la Chambre des députés.
Intense combat entre les FRDC et les ADF à Mutara en République démocratique du Congo. Mac Azouké, le porte-parole de l'offensive de l'armée congolaise dans la région, baptisée Sokola 1 ou Sokola 1, a confirmé à VOA Afrique les affrontements dans cette vallée située à 45 km environ au nord-est de Beni. Les combats ont commencé dimanche et se poursuivaient lundi, a-t-il poursuivi, sans pouvoir donner un bilan à ce stade.
En Côte d'Ivoire, reprise demain mardi du procès d'officier pro-Bagbo, 9 officiers comparaissent dans ce procès ouvert le 9 juin, mais interrompu à la demande des avocats de la défense qui réclamaient des dossiers de preuve ou, le cas échéant, l'exhumation du corps d'une victime en vue d'une autopsie. L'ancien chef de la sécurité rapproché de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, commandant Anselme Seka Yapo, surnommé Seka Seka, avait été le dernier accusé entendu par le tribunal en juin. Il est poursuivi pour meurtre de son garde du corps durant la dernière crise, mais également pour assassinat et blanchiment d'argent aux fins d'achat d'armes. L'officier plaide non coupable.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un attentat suicide a fait aujourd'hui au moins 30 morts et une centaine de blessés dans une ville turque située non loin de Kobané en Syrie. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais le gouvernement turc soupçonne le groupe État islamique d'en être l'auteur. Les premiers éléments montrent que l'explosion est un attentat suicide perpétré par le groupe État islamique, a déclaré le Premier ministre turc Ahmet Davutoğlu lors d'une conférence de presse à Ankara. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné l'attaque, disant que la terreur doit être condamnée, quels que soient ses auteurs.
Le secrétaire américain à la défense Ashton Carter a entamé une visite au Moyen-Orient en vue de rassurer les partenaires des États-Unis après la signature de l'accord sur le nucléaire iranien en Israël. Il a été accueilli aujourd'hui par son homologue Moshe Yalon, avant de rencontrer demain le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Le chef du Pentagone a rappelé le rôle crucial de l'État hébreu dans la stratégie américaine au Moyen-Orient, déclarant toutefois qu'il n'espère pas changer la position des dirigeants israéliens opposés à l'accord signé avec le régime iranien.
Les banques grecques ont rouvert lundi matin après 3 semaines de fermeture instaurée pour protéger le système bancaire des retraits massifs. Camille Grosdidier.
Des mesures de contrôle des capitaux sont toujours en vigueur, ainsi que de nouvelles taxes imposées par les créanciers d'Athènes. La limite quotidienne de retrait reste fixée à 60 euros, mais le gouvernement accordera une nouvelle limite hebdomadaire de 420 euros dès dimanche prochain, ce qui évitera aux Grecs de se rendre aux guichets automatiques pratiquement chaque jour. Par ailleurs, les virements vers l'étranger restent étroitement limités. Les nouvelles taxes sont entrées en vigueur sur une variété de biens et services, notamment la taxe de vente est passée de 13 à 23% sur de nombreux produits de base. L'allègement de la fiscalité faisait partie des conditions qu'Athènes devait remplir pour négocier un ultime plan de sauvetage financier avec ses créanciers. La Banque centrale européenne a renforcé son aide d'urgence aux banques grecques. Un accord doit être négocié dans les prochaines semaines pour accorder à la Grèce autour de 85 milliards d'euros.
Les États-Unis et Cuba ont officiellement rétabli tôt ce matin leurs relations diplomatiques après plus de 5 décennies d'hostilité. Jacques Aristide.
De la guerre froide au réchauffement diplomatique, l'instant était historique. À 0h01 tapante, ce lundi 20 juillet 2015, les bâtiments abritant les services diplomatiques des deux pays, à La Havane et à Washington, ont recouvré automatiquement le statut d'ambassade. Image du jour, le drapeau cubain aux couleurs rouge, blanc et bleu a été ajouté aux étendards d'autres pays à l'entrée du bâtiment du département d'État dans la capitale américaine. Toujours à Washington, une cérémonie a eu lieu dans la toute nouvelle ambassade de Cuba en présence du ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez Parilla, la première visite d'un chef de la diplomatie cubaine depuis 1959. Un tête-à-tête était ensuite prévu avec son homologue américain John Kerry. Après 54 ans, c'est donc une nouvelle étape concrète qui est franchie suite au rapprochement entamé en décembre par les présidents Barack Obama et Raúl Castro. Mais la normalisation des relations n'est pas sans critique. Le sénateur républicain Marco Rubio, lui-même d'origine cubaine et candidat à la présidentielle américaine, a déclaré qu'il mettrait fin aux relations diplomatiques avec ce qu'il appelle la tyrannie communiste anti-américaine jusqu'à une vraie ouverture démocratique à Cuba s'il était élu l'an prochain.
Revenons sur le nucléaire iranien. Vote unanime ce lundi au Conseil de sécurité de l'ONU sur l'accord nucléaire conclu entre l'Iran et le groupe 5+1 mardi dernier. La décision du Conseil ouvre la voie à la levée des sanctions imposées à l'Iran depuis 2006 à cause de son programme nucléaire. Téhéran, qui a toujours revendiqué le caractère pacifique de son programme, ne sera plus sous sanction dès que les équipes d'inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique auront fourni un rapport positif sur la mise en application de l'accord de Vienne.
Voilà, c'est tout pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Camille Gros-Didier.
Avertissement de la FAO, les économies d'Afrique de l'Ouest, déjà fragilisées par l'épidémie d'Ebola, risquent de se ressentir également de l'épidémie croissante de grippe aviaire hautement virulente H5N1. La FAO réclame 20 millions de dollars pour financer des opérations d'intervention et de prévention. Un appel lancé après l'apparition de foyers du virus H5N1 dans les élevages de volailles, les marchés et les exploitations familiales au Nigeria, Burkina Faso, Niger, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Depuis 2014, plus de 1,6 million de volailles ont été abattues ou sont mortes des suites du virus, ajoute la FAO. Le prix de l'or est retombé sous 1100 dollars, plombé par le durcissement de ton de la Banque centrale américaine et le communiqué décevant de la Banque centrale chinoise sur ses réserves de change de métal jaune. Les spéculations sur les achats d'or de Pékin avaient constitué un frein à la chute des cours ces dernières années, mais l'appétit du gouvernement chinois pour le métal jaune n'est pas aussi prononcé que les spéculateurs le croyaient, d'où la faiblesse du cours de l'or ce lundi. Et puis, en visite aux États-Unis, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, devait demander lundi à Barack Obama son aide pour permettre le rapatriement de milliards de dollars dissimulés dans des comptes à l'étranger. Également au menu des pourparlers, le renforcement du commerce entre les deux pays.
Merci Camille pour cette Minute Éco. Et maintenant, place au sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire.
Alors ce soir, football, Sepp Blatter met les choses au clair.
Le président démissionnaire de la FIFA, Joseph Blatter, a affirmé qu'il ne se représenterait pas à sa propre succession lors de l'élection d'un nouveau président en février 2016. Le Suisse s'exprimait à Zurich après la décision du conseil exécutif de la FIFA de fixer au 26 février prochain l'élection d'un nouveau président pour laquelle Michel Platini réfléchit encore à se porter candidat.
Football toujours, mais au Burkina Faso cette fois.
Oui, puisqu'ont eu lieu ce week-end les quarts de finale de la Coupe du Faso, 29e du nom. On connaît donc désormais l'affiche des quarts de finale. Le tenant du titre, le Racing Club de Bobo Dioulasso, qui s'est imposé dans la douleur face au club de 2e division des Léopards de Saint-Camille. 5 tirs au but à 4 après prolongation. L'AS Fayenega a été dominé par l'USFA, 3 buts à 1. Et puis l'ASK Koupela qui a été sèchement battu, 3 buts à 0 par EFO. Enfin, l'ASF Bobo qui a battu le centre de formation de Tampuy. Les demi-finales auront lieu le 25 juillet entre l'USFA et le Racing Club de Bobo Dioulasso et entre l'EFO et l'ASF Bobo Dioulasso.
Cyclisme, la 16e étape du Tour de France.
La descente acrobatique de La Rochette a pimenté le final de cette étape de la Grande Boucle gagnée à Gap par l'Espagnol Ruben Plaza. Le Britannique Chris Froome de l'équipe Sky garde le maillot jaune de leader après cette étape surchauffée de 200 km à la veille de la seconde journée de repos.
Et puis tennis, Serena Williams, plus que jamais numéro 1 mondial.
L'Américaine entame sa 250e semaine à la tête du classement WTA. Serena Williams, malgré son forfait dans le tournoi de Bastad en Suède, rentre dans le cercle très fermé des joueuses ayant dépassé plus de 250 semaines en tête du classement. Elles sont quatre dans ce cas-là. L'Allemande Steffi Graf et les Américaines Martina Navratilova et Chris Evert. Sachez aussi que le Suisse Roger Federer chez les hommes, le numéro 2 mondial de tennis, était aujourd'hui au Malawi pour inaugurer un centre d'aide à la petite enfance financé par sa fondation. Je vous rappelle que dans ce pays d'Afrique australe, plus d'un million d'enfants n'ont pas accès à la crèche ou à l'école maternelle.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibourg et Chérubin Dorsil en votre compagnie, place au dossier du jour.
Nous revenons, Claire, sur l'ouverture du procès historique d'Issenabré à Dakar.
Jamais l'Afrique n'avait jugé d'ex-chef d'État jusqu'à présent. Un procès qui a pu se tenir grâce à la ténacité des victimes, mais surtout de l'avocat de l'ONG Human Rights Watch, Reid Brody, surnommé le chasseur de dictateurs. Je l'ai joint à Dakar alors qu'il assistait à cette première journée d'audience. Reid Brody.
C'est un moment d'émotion de se rendre compte que finalement on a abouti, que Issenabré est devant un tribunal, qu'il est possible, malgré les sceptiques et les cyniques, que les victimes puissent s'organiser pour traduire en justice un dictateur. C'est donc une journée d'émotion et de joie même pour nous qui avons travaillé depuis, moi mon cas, 16 ans. Ce cas.
C'est très important que Issenabré puisse avoir un procès équitable. Est-ce que vous avez confiance en la justice sénégalaise et sur la façon dont elle s'est organisée pour tenir ce procès?
Jusqu'ici, on a eu une instruction exemplaire. Les quatre juges d'instruction ont fait quatre commissions rogatoires au Tchad. Ils ont interviewé plus de 2500 témoins et victimes. Ils ont ouvert les charniers. Ils ont désigné des experts historiens et militaires pour décrypter la structure de Issenabré. Et surtout, ils ont eu accès aux milliers de documents de la police politique de Issenabré qui retracent dans le détail comment Issenabré a organisé, exécuté la répression du peuple tchadien. Donc, ils ont confectionné un dossier très solide. Maintenant, le procès qui se voit aujourd'hui devrait être tout aussi exemplaire.
Est-ce que vous pensez que c'est aussi un signe pour d'autres dictateurs dans le monde, qu'ils soient africains ou non?
Justement, les victimes de Issenabré ont été inspirées par l'exploit des victimes et des militants chiliens qui ont réussi à traduire en justice Augusto Pinochet. Et on a l'espoir que ce procès montre qu'il est possible pour les victimes, avec ténacité et persévérance, d'arriver jusqu'au bout et que cela inspire donc d'autres rescapés, d'autres organisations des droits de l'homme, de reprendre le flambeau dans leur pays et d'obtenir justice où ça ne semblait pas possible à première vue.
Reid Brody, avocat de l'ONG Human Rights Watch.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur l'après-présidentielle au Burundi. Deux jours après ce scrutin controversé, quelles perspectives après le passage en force de Pierre Nkurunziza? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Crise au Burundi, l'ONG MSF lance un cri d'alarme. Elle avertit que le camp de déplacés de Nyarugusu en Tanzanie est submergé par les réfugiés venus du Burundi. On écoute son coordinateur des urgences, Olivier Antonin, qui revient du camp.
Le constat sur place, c'est que ce grand camp abritait seulement 64 000 Congolais, donc les Banyamulenge qui avaient fui le Congo il y a une vingtaine d'années, en 1997. Et que le Haut Commissariat des réfugiés s'apprêtait d'ailleurs à les aider à retourner au Congo au printemps dernier. Et il se trouve qu'avec les événements qui se sont passés au Burundi et qui ont déclenché une fuite de certaines personnes, ce camp est passé de 65 000 personnes à 145 000 aujourd'hui. Donc ça s'est fait de manière assez progressive, mais l'adaptation des partenaires, des différents partenaires dans le camp pour subvenir aux besoins des gens, que ce soit l'eau, la nourriture, les abris ou la santé, il y a du mal à suivre la demande, si je puis dire.
MSF lance un appel pour que les réfugiés puissent être déplacés vers un autre site.
C'est une question éminemment politique. La Tanzanie officiellement dit qu'elle veut chercher un autre site. C'est vrai que pour l'instant, ça ne s'est pas concrétisé. Les propositions faites ne correspondaient pas à l'implantation d'un site pour des raisons où c'était du rocher, ou enfin, donc il y a des raisons techniques. Après, nous, pour creuser des latrines ou apporter de l'eau, il faut tenir compte de ces éléments-là. Mais la Tanzanie entre aussi dans une phase d'élection pour renouveler tout le Parlement et donc le gouvernement, et ce qui fait que la gestion de 150 000 réfugiés à la frontière devient un problème éminemment politique en interne. C'est-à-dire que la région de Kigoma, qui est responsable de ça, et forcément, ils ne savent pas trop par quel bout le prendre, disons, pour pas que ça ait une influence sur la façon dont les gens vont voter dans cette région. La question, c'était par rapport au second site. Oui, il y a une demande. Oui, pour l'instant, il y a une réponse qui va dans ce sens de la part des autorités. Donc, il y a une volonté quand même de créer un deuxième site. Et aussi parce que l'actualité fait que on voit bien qu'on va aller vers les 200 000 personnes. Le flux de réfugiés ne s'arrête pas.
Olivier Antonin, coordinateur des urgences pour Médecins sans frontières, qui était joint par Camille Grosdidier.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Cap sur le nord du Mali, et plus précisément la ville de Gao, qui est dans le noir depuis vendredi. La centrale thermique ne fonctionne plus. Tout tourne donc au ralenti, nous dit notre correspondant à Gao, Boubacar Touré.
Les populations de Gao souffrent aujourd'hui du manque d'électricité, tout tourne au ralenti. Le boulanger n'arrive pas à faire du pain, le soudeur du quartier ne sait plus à quoi s'en tenir. La centrale thermique ne tourne plus depuis 48 heures. Daouda Cham, directeur de l'EDM de Gao.
Dans la nuit du vendredi 17 vers 21h, il y avait un vent violent au niveau de la centrale. On a constaté un déclenchement général. Et quand les agents se sont remportés sur les lieux, ils ont constaté qu'il y avait un incendie au niveau des installations. Ça veut dire qu'il y a eu un à-coup sur les réseaux et qui s'est répercuté sur la sortie de la centrale. Et c'est ça qu'on appelle les cellules. Et le choc a été tel qu'il y a eu incendie. Il y a des éléments qui ont été endommagés. Donc il n'y avait aucune possibilité dans l'immédiat de reprendre le service. Donc ils ont rassemblé les matériels qu'il faut et en ce moment ils ne sont pas encore arrivés. Ce qui explique cela, c'est un problème de transport tout simplement.
En attendant, les populations de Gao doivent continuer à garder leur mal en patience. Kao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Nous nous rendons maintenant au Burkina Faso où des filles ont été enlevées à l'école pour être mariées selon l'Association pour la promotion des femmes. Au micro de Nathalie Barge, Bibata Nabaloum, la présidente de cette ONG burkinabé qui participe à la campagne d'Amnesty International contre les unions forcées et précoces des filles.
Il y a des enfants de 12 ans qui sont donnés en mariage et forcés et précoces. Et dans les localités, nous enregistrons des enfants victimes de ce phénomène et qui sont des fois réfugiés au niveau de la mission catholique chez les sœurs ou au niveau des pasteurs et de la mission protestante. Et ce qui fait que Et ça joue beaucoup sur la scolarité des enfants, ça joue sur la santé des enfants.
Madame Nabaloum, nous avons posté une information sur le Facebook de VO Afrique sur le mariage forcé des enfants, des petites filles. De nombreuses personnes étaient choquées, bien sûr, mais également il y avait plusieurs réactions de personnes qui ne voulaient pas y croire, qui ne voulaient pas croire qu'il y a des gens qui marient des enfants de 9 ans, de 10 ans, de 12 ans, etc. Qu'auriez-vous à répondre à cela ?
Les auditeurs ne vivent pas la réalité du terrain. Nous, nous sommes sur le terrain. Et nous voulons leur faire savoir que les enfants, de quoi les enfants font l'objet d'enlèvements dans les écoles.
Bibata Nabaloum, dans un extrait du magazine Au Féminin, présenté par Nathalie Barche.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso, sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, Awaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Le président Barack Obama se rend le 23 juillet en Afrique de l'Est, alors que le département d'État américain lance une nouvelle mise en garde contre de possibles attaques terroristes au Kenya. En fait, la lutte contre le terrorisme sera au centre de ces discussions que le chef de l'exécutif américain aura avec ses homologues kényans et éthiopiens. Idrissa Sedoudia.
Pendant sa tournée de 2013 au Sénégal, en Afrique du Sud et en Tanzanie, le président Obama avait annoncé des initiatives pour renforcer la coopération américaine avec le continent dans les domaines du commerce, des investissements et des infrastructures. Selon lui, ses visites au Kenya et en Éthiopie visent à envoyer un message similaire, à savoir que les États-Unis sont des partenaires solides non seulement avec ces deux pays, mais aussi avec toute l'Afrique subsaharienne.
Build on the progress that's been made around issues of health and...
Bâtir sur les progrès qui ont été réalisés dans les secteurs santé et éducation, se concentrer sur les questions de lutte antiterroriste qui sont importantes pour l'Afrique de l'Est à cause d'Al-Shabaab et de certaines tragédies qui ont frappé l'intérieur du Kenya. La première visite officielle du président Obama au Kenya, terre natale de son père, coïncide avec la poursuite des attaques sanglantes des miliciens islamistes somaliens et aura lieu quelques jours seulement après la réouverture à Nairobi de Westgate, où les Shabab ont massacré 67 personnes lors d'un siège de ce centre commercial en 2013. La lutte contre le terrorisme sera également évoquée lorsque M. Obama visitera le siège de l'Union africaine en Éthiopie voisine. Ce sera la première visite d'un président américain dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Selon Jeffrey Smith du Centre Robert F. Kennedy pour les droits de l'homme, les États-Unis considèrent l'Éthiopie comme une alliée clé dans la région, en particulier dans la lutte contre Al-Shabaab. Malgré tout, Smith estime que le président Obama envoie le mauvais message en se rendant en Éthiopie à cause de la nature répressive de ce régime. Ce que les gens ne savent pas, c'est que l'Éthiopie se classe quatrième dans le monde parmi les pays qui pratiquent le plus la censure et deuxième parmi ceux qui emprisonnent le plus les journalistes en Afrique, deuxième après l'Érythrée. Bronwyn Broughton de l'Atlantic Council, qui a rencontré des activistes musulmans en Éthiopie, dont certains reconnus coupables récemment de terrorisme, qualifie lui aussi d'erreur la visite du président Obama dans ce pays. Le fait que l'Éthiopie accueille le président Obama au lendemain de ce verdict et d'élections qui ont vu le parti au pouvoir rappeler tous les sièges en jeu envoie un message désastreux au gouvernement éthiopien. En réaction à ce genre de critique, un haut responsable de l'administration Obama a souligné que les États-Unis communiquent régulièrement au gouvernement éthiopien leurs préoccupations dans le domaine des droits de l'homme, à la fois publiquement et en privé.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace. Peace Africa.
Cette édition touche à sa fin. On remercie Lionel Gaïma qui a dirigé la mise en onde de ce soir, assisté de Justin Thwaite à la console technique. Présentation, Claire Morin-Gibourg et Chérubin Gaby Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.